بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Maintenant, nous allons aborder, inshallah, le troisième hadith, ou le quatrième hadith plutôt. Hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, un compagnon illustre, l'un des premiers qui s'est converti à l'islam, et, dit-on, le premier à avoir récité de vive voix, c'est-à-dire de manière publique, le Coran devant les polythéistes de la Mecque. Et il en a payé cher, puisqu'ils se sont pris... Ils se sont pris à lui physiquement, ils l'ont frappé et on l'a rapporté au prophète en sang. Et le prophète lui a dit, ne t'avais-je pas dit qu'ils allaient te violenter si tu faisais ça? Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, je recommencerai encore. Abdullah ibn Mas'ud, c'est aussi un compagnon qui avait beaucoup de savoir. Durant le califat de Omar ibn al-Khattab, il va être en Irak et il sera chargé, il aura comme responsabilité de s'occuper des caisses de l'État musulman dans cette région. Et de là va se propager ses avis dans la région de l'Irak. Et plus tard, Abu Hanifa, radiallahu anhu, l'un des grands fondateurs des écoles juridiques en islam, va beaucoup profiter de son savoir, puisque lui aussi, Abu Hanifa, était de cette région. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, un homme de savoir, un faqih, va avoir une influence sur Abu Hanifa, qui par la suite va avoir une influence sur le monde musulman jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un homme de savoir, un homme pieux. Aussi, c'est un homme qui récitait très bien le Coran, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enjoint les musulmans de prendre leur récitation du Coran de Abdullah ibn Mas'ud et d'autres compagnons. Un nombre assez limité, il en faisait partie. Abdullah ibn Mas'ud dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui qui n'a reçu que des vérités, a dit, la création de l'un d'entre vous provient du rassemblement d'une goutte de liquide dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Puis, il se transforme en une adhérence pendant une période similaire, 40 jours. Puis, en une masse de chair comme mâchée pendant une période similaire, encore 40 jours. Il lui est ensuite envoyé l'ange qui lui insuffle l'âme. Cet ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, c'est-à-dire cet embryon. Il écrit ce qui lui sera accordé comme bien, son délai de vie, ses actions, et s'il sera malheureux ou heureux dans cette vie, ou comme on le verra, plutôt dans l'au-delà. Par Dieu, en dehors duquel il n'y a nulle divinité. L'un d'entre vous peut accomplir des actes, comme le font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Il est alors devancé par ce qui est écrit, c'est-à-dire par son destin, et commet des actes dignes des gens de l'enfer qui le conduisent ainsi au feu. De même, l'un d'entre vous se voit accomplir des actes semblable à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste entre lui et la fournaise qu'une coudée. Ce qui est écrit le devance alors, si bien qu'il finit par agir à la façon des gens du paradis pour y être effectivement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nul doute sur son authenticité. Ce hadith, il contient d'énormes enseignements. On ne va pas le détailler ce soir. Ce soir, ça va être une introduction à l'étude de ce hadith qu'on fera, inshallah, la semaine prochaine. Parce que ce hadith, comme vous l'avez entendu, hein, la première partie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de la constitution de l'homme. Donc c'est un passage scientifique, hein, qui a trait à l'embryologie, où on nous décrit les étapes, le processus de fécondation, ensuite le processus de constitution de l'homme, et ensuite l'insufflation de l'âme. Et cette partie-là, cette partie scientifique, elle mérite de moi que je me penche un peu plus sur cette question médicale ou scientifique, embryologique, et j'ai pas eu assez le temps. En plus de ça, c'est cette partie du hadith qui va donner lieu à une grande divergence quant à la question de l'avortement. Donc ça aussi c'est une question assez délicate qui demande également plus de recherche. La deuxième partie du hadith, quant à elle, nous parle de la destinée. Donc la première partie, elle nous parle de la création de l'homme dans le ventre de sa maman. La fin du hadith nous parle de la destinée de l'être humain, qu'il peut être des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Donc on a ici le début et la fin de l'être humain, le début de sa vie et la fin de sa vie. Et la deuxième partie également est soulevée, dans la première et la deuxième, est soulevée une question également assez délicate, même polémique, celle du destin. Comment comprendre le destin, le libre arbitre et la volonté de Dieu? C'est assez compliqué aussi, ça demande un peu plus de recherche. Donc on va laisser tout ça à la semaine suivante, mais en guise d'introduction, ce qu'on va faire, pour justement qu'on comprenne bien la divergence dans la question de l'avortement, on va s'intéresser à une autre question qui n'a rien à voir, hein. Enfin en tout cas, c'est un thème différent, mais on va en tirer de cette question qu'on va aborder ce soir, on va en tirer des règles qui vont nous permettre de comprendre la divergence. La divergence dans la question de quoi qui nous intéresse, celle de la de l'interruption de la grossesse ou de l'avortement. On va parler de la question du chien en islam. La question du chien en islam, pourquoi avoir pris cette question du chien? Parce qu'elle est intéressante dans ce qu'on appelle les sciences des fondements du droit en islam et la science du hadith. C'est-à-dire qu'on va aborder cette question du chien pour pouvoir en extraire des règles dans les questions liées au hadith et à usul al-fiqh, les fondements du droit. Donc c'est simplement un support pour en tirer des règles. Avant d'aller dans le vif du sujet, un hadith qu'on avait déjà abordé auparavant dans une des khutab, souvenez-vous, un homme, dit le prophète, après avoir prié la prière de l'Fajr dans sa mosquée, un homme dans les communautés qui nous ont précédés possédait une vache, il l'a tirée par la sangle et il a décidé de la chevaucher, c'est-à-dire de monter sur son dos. Et il a pris un bâton et il l'a frappé pour qu'elle avance. Et la vache, dit le prophète, a tourné sa tête vers son propriétaire et elle lui a dit: nous n'avons pas été créés pour cela, c'est-à-dire pour la monture, mais nous avons été créés, nous les vaches, pour al-harth, c'est-à-dire le labourage de la terre, ou si vous voulez, l'agriculture. Et les compagnons, en entendant ce récit extraordinaire, vont dire, étonné, subhanallah, une vache qui parle. Et le prophète va répondre: oui, moi je crois en la véracité de cette histoire, de ce propos. Moi, ainsi que Abu Bakr et Omar, et ses deux compagnons n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'ils avaient une foi tellement grande en la puissance de Dieu, qui peut faire parler une vache, et en l'authenticité des propos du prophète, que s'ils étaient là, ils m'auraient cru sur parole. Enfin, ils n'auraient pas été étonnés comme vous. Bien que l'étonnement n'est pas synonyme de doute. C'est un étonnement naturel. La vache a parlé. Tous les animaux parlent. Ça, c'est quelque chose qui est avéré aujourd'hui par les scientifiques. Les animaux ont un langage qu'on ne comprend pas forcément, certes, mais en tout cas, les animaux parlent. Donc ici, c'est pas extraordinaire que d'entendre qu'une vache parle. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un homme l'a entendu et l'a compris. Et l'a comprise, la vache. Souleyman alayhi salam, le prophète Salomon, comme c'est cité dans le Coran, Il entendait les animaux parler, il les comprenait, il leur répondait. Vous connaissez la fameuse histoire quand il était avec son armée en marche et il y a une fourmi qui s'adressait à ses congénères. Elle a dit « Cachez-vous car Soleiman, Salomon et son armée pourraient vous écraser sans le savoir. » Il a entendu ça, il a souri. À un moment donné, il a parlé avec une huppe qui est venue lui apporter certaines informations militaires importantes. Et donc, ce n'est pas miraculeux qu'un animal parle. Ce qui est miraculeux dans ce hadith, c'est que l'homme l'a entendu et l'a compris. Qu'est-ce qu'a dit la vache? Elle a dit, nous n'avons pas été créés, nous, les vaches, pour la monture, comme les chevaux, mais nous avons été créés pour l'agriculture, donc tu n'as pas le droit, elle veut dire à son maître, tu n'as pas le droit de m'utiliser pour une fonction qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de la création de Dieu, qui est de m'utiliser dans ce pourquoi j'ai été créé. Et effectivement, ce qu'elle a dit, et si c'est une vache qui a parlé, c'est pas pour rien, c'est que effectivement les gens, par la suite, à notre époque même, vont utiliser les vaches pour des fonctions qui ne sont pas les leurs à l'origine. Et ils vont changer la création de Dieu et commettre des choses condamnables, non pas par principe parce qu'ils ont utilisé la vache dans ce qui n'est pas sa fonction, mais surtout parce qu'ils ont soit fait souffrir l'animal, soit ils lui ont donné un rang qui n'est pas le sien, celui d'une divinité. Vous savez que il y a ce qu'on appelle la corrida et le rodéo. La corrida et le rodéo, ça fait souffrir l'animal, ça fait plaisir aux gens qui assistent au spectacle, mais ça fait souffrir l'animal. Ça, c'est un extrême, un excès, qui est d'avoir fait de l'animal un objet qui ne ressent pas la douleur, d'avoir considéré comme tel. Un autre excès, à l'inverse, c'est d'avoir donné un rang à la vache qui n'est pas le sien, celui d'un dieu, comme c'est le cas dans certaines contrées du continent asiatique, où certaines populations vénèrent, vouent un culte aux vaches. Si une vache s'arrête en plein milieu de la route et qu'elle provoque un embouteillage, et bien tout le monde doit rester calme, attendre que la vache décide de se lever et de partir, parce que c'est un dieu, il ne faut pas le brusquer, il fait ce qu'il veut. Et c'est la même chose pour d'autres animaux, comme le rat, qui est aussi vénéré dans certaines contrées du monde, mais aussi d'autres animaux, hein. Et justement, on va parler du chien, juste après. Tout ça, c'est pour en venir au chien, aujourd'hui. Les combats de coqs, les combats de béliers, tout ça, c'est aussi prohibé en islam, parce que c'est utiliser cet animal pour une fonction qui n'est pas la sienne, en plus ça fait souffrir l'animal, tout ça c'est pas bon. C'est vrai pour le monde animal, mais c'est aussi vrai pour le monde végétal. Souvenez-vous, on avait dit que le scandale du maïs transgénique, c'est-à-dire on est intervenu dans la création même, on a modifié les plantes, on a modifié parfois les animaux, la vache folle, la grippe porcine, je ne sais trop quoi, donc toutes ces maladies qui viennent de quoi? Toujours de la même erreur, c'est d'avoir modifié l'ordre naturel des choses, de l'avoir bouleversé, et ça crée des conséquences graves dans le monde naturel et en premier lieu chez l'être humain. Même chose pour le chien. Le chien également, aujourd'hui, il est utilisé pour une fonction qui n'est pas la sienne, où on lui a donné un statut qui n'est pas le sien. C'est celui de l'avoir traité mieux qu'un enfant. Et nous, en islam, comme on va le traiter en détail, il ne nous est pas possible de faire entrer un chien chez soi et de l'adopter comme si c'était un enfant, de le considérer comme si c'était un enfant chez soi, d'en faire un animal de compagnie chez soi. Les chiens, on va le voir, peuvent être utilisés pour beaucoup de fonctions, beaucoup de choses intéressantes, mais une chose est prohibée, c'est de le garder chez soi comme animal de compagnie. Pourquoi? Pour justement éviter les excès dans lesquels on est tombé aujourd'hui, Vous le savez, aujourd'hui, certaines familles, poussées par les sentiments et l'affection, finissent par dépenser de l'argent, sans compter, pour cet animal. Donc des soins de manicure, des soins de beauté, des vêtements. Paraît-il qu'il y a des défilés de mode maintenant de chiens. Aux États-Unis, paraît-il qu'il y a des chaînes télévisées propres aux chiens. Donc on s'abonne pour que le chien ait son programme télévisé. On lui offre des nourritures qui coûtent je sais pas combien, un budget énorme dans le mois. On les marie, il y a des mariages pour chiens maintenant. Il y a même des cérémonies funèbres pour les chiens. Il y a même des stars maintenant qui font hériter leurs chiens, des millions, comme ça s'est passé en Angleterre. Tout ça pourquoi ? Parce que le chien est un animal qui s'attache rapidement à l'homme et l'homme s'attache rapidement au chien. C'est peut-être même l'animal qui est le plus affectueux. Et justement, comme Dieu et son prophète savaient qu'un jour, l'affection, le sentiment aveuglerait les gens, ils ont mis des limites. C'est de ne pas garder chez soi un chien comme animal de compagnie. Bien que ça soit possible pour l'oiseau, pour le poisson, pour le chat, le chien, non. Pour cette raison et aussi pour d'autres raisons qu'on va évoquer, inshallah, en traitant ce thème en détail. Regardez le hadith qui nous intéresse. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte: j'ai entendu de mes oreilles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiya fa innahu yantaqisu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Traduction: donc Abdullah ibn Umar dit: celui qui se procurera un chien pour comme animal de compagnie chez soi, chez lui. Sauf dans le cas, donc celui qui se procure un chien, sauf dans le cas où ce chien serait un chien saïd, c'est-à-dire un chien de chasse, ou un chien berger qui va garder le troupeau, mashia. Donc celui qui se procurera un chien, sauf dans ces deux cas, alors chaque jour, ses hasanat, son salaire, diminuera de l'équivalent d'une montagne, de deux montagnes, excusez-moi. Donc celui qui se procurera un chien de compagnie chez lui, chaque jour qui passera, deux montagnes de hasanat vont être retranchées. De quoi ? De son salaire. Voilà ce que dit le hadith. Ce hadith, cette parole du prophète, a été rapportée par ce compagnon. Maintenant, on a un autre compagnon qui a assisté et qui a entendu le prophète parler. Donc maintenant, je vais vous rapporter la version d'un autre compagnon. Ce compagnon, c'est Abu Huraira, celui qui a le plus rapporté de traditions prophétiques. Il avait une bonne mémoire. Le prophète a invoqué Dieu de lui donner une bonne mémoire. Et donc, il nous rapporte ce propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: man amsaka kalban, celui qui prendra un chien, fa innahu yanqusu kulla yawmin min ajrihi qirat. Il va être à l'origine de quoi ? D'une diminution de biens, de hasanat, l'équivalent d'une montagne. Une montagne. Sauf si c'est un chien, regardez bien ce qu'il va dire. Harf ou mashia. Mashia, on l'avait dans le premier hadith, enfin dans le propos rapporté par Abu Umar, c'est-à-dire un chien berger. Mais ici, il nous dit un chien harf, c'est-à-dire un chien qui va garder, surveiller une plantation, c'est-à-dire un chien de garde. Ça, c'est la deuxième version du hadith entendue par Abu Huraira. Venons-en à une troisième version, celle de Soufiane ibn Abi Zuhayr al-Shana'i. Il dit: j'ai entendu le prophète dire: man iqtana kalban, celui qui va se procurer un chien pour la maison, comme animal de compagnie. La yughni anhu zar'an, il ne lui servira pas pour la surveillance d'une plantation. Wala dar'an, ni la surveillance du troupeau. Naqasa min 'amalihi kulla yawmin qirat, chaque jour qui passera, son salaire diminuera de quoi ? D'une montagne, l'équivalent d'une montagne. Quelqu'un lui dit, en entendant le compagnon rapporter cette parole du prophète, quelqu'un lui dit, as-tu entendu ça de la bouche du prophète ? Et l'homme va dire, oui, je le jure par le Dieu de cette mosquée, qui était dans la mosquée. Ou bien, je le jure par le Dieu de cette qibla. Hein, cette qibla, cette orientation. Quatrième compagnon qui a entendu le hadith de la bouche du prophète. Écoutez comment il le rapporte. Abdullah ibn al-Mughaffal rapporte que le prophète a dit « Man ittakhadha kalban, celui qui va prendre un chien, sauf si c'est un chien de chasse, berger, de garde. Chaque jour qui passera, l'équivalent d'une montagne de hasanat, il en sera privé. » Donc on a ici quatre compagnons qui ont entendu la parole du prophète qui traite du même sujet, celui du chien. Mais vous avez remarqué, quand on a cité, qu'il y a des différences. Quelle différence y a-t-il ? D'abord, il y a une différence dans les verbes. Au départ, Abdullah ibn Omar, il a utilisé un verbe. Iqtana. Abu Huraira, il a utilisé un autre verbe. Amsaka. Le dernier compagnon a apporté un autre verbe, ittakhada. Ce sont trois verbes en arabe, trois verbes, qui renvoient au fait de s'approprier un chien. Seulement, les trois verbes ne sont pas synonymes. Chaque verbe, il a une spécificité dans la langue arabe. Comme en français, quand je dis donnez-moi un exemple de deux verbes qui décrivent la même action, mais chacun rajoute un élément. Voir, ce n'est pas pareil que observer ou que regarder. Voir, quand je dis observer, c'est avec attention. Voir, c'est j'ai vu. Donc, même si c'est toujours la même chose, enfin, la même action, celle de la vision, chaque verbe apporte un élément. Même chose ici. Irtana en arabe, c'est pas amsaka ou ittakhada. Ittakhada amsaka, c'est tout simplement le fait de prendre un chien, de s'approprier un chien. Mais irtana en arabe, quand il est utilisé, c'est s'approprier une chose pour la maison, pour chez soi. Si je dis en arabe « irqtanaytu » une table, ça veut dire que je me suis procuré une table pour, chez, pour la maison, pour en faire un usage personnel domestique. Mais si je dis, par exemple, « ittakhadhtu tawilatan » ou « akhadhtu tawilatan » j'ai pris une table, je me suis procuré une table, ça peut être pour chez toi, mais ça peut être aussi pour le commerce. Je ne sais pas, c'est général. Irtana, c'est pour chez soi. Donc quand Abdullah ibn Omar a dit, j'ai entendu le prophète dire, celui qui se procure un chien, en utilisant le verbe irtana, tu comprends qu'en fait le prophète voulait dire pour chez soi. D'accord ? Donc il est plus précis que les autres compagnons qui ont utilisé un verbe absolu, général, qui pourrait nous laisser le doute. Ensuite, on a aussi une différence dans les catégories de chiens cités. Le premier compagnon a cité deux catégories, qui sont le chien de chasse et le chien berger. Le deuxième, Abu Huraira, il est d'accord avec Abdullah ibn Omar, il a bien entendu le chien de berger, mais lui, il a dit un chien, le premier, il a dit un chien de chasse et berger. Le deuxième, un chien berger et un chien de garde. Donc ils sont d'accord sur le chien berger, mais ils divergent sur la deuxième catégorie. Abdullah ibn Omar a dit un chien berger, Abu Huraira a dit un chien de garde. Est-ce que c'est contradictoire? Ils ont tous les deux assisté à la... Ils étaient présents, le prophète a parlé. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est contradictoire? Dites-moi. Non? Bah, comment expliquer alors que un dit...
C'est pas contradictoire, c'est différent, mais pas contradictoire.
D'accord. Mais comment expliquer que il y en a un qui dit chien berger, tous les deux disent chien berger, un il rajoute une catégorie chien de chasse et l'autre il dit chien de garde. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rapporté la même catégorie? Pourquoi est-ce...
Oui. Au même moment qu'ils ont entendu parler.
Déjà, ça c'est une bonne question. L'ont-ils entendu au même moment? Parce qu'il y a une hypothèse, c'est que le prophète a parlé à deux reprises, à deux moments différents, et il a cité une catégorie différente à deux endroits différents. C'est possible. Mais il y a une probabilité plus vraisemblable. C'est que tous les deux ont assisté, ils ont entendu la même parole, mais chacun a retenu une chose et en a omis une autre. C'est-à-dire, ils avaient une mémoire sélective à ce moment. Et ça, ça nous arrive quand on écoute une même personne, on retient ce qui nous touche ou ce qui nous intéresse. Peut-être que Abdullah ibn Omar n'a pas retenu le chien de garde parce que pour lui, ça n'a pas d'intérêt ou c'est pas quelque chose en vogue. Mais par contre, chien de chasse, chien berger, eh ben, c'est très présent dans sa société. Donc il a retenu ça. Abu Huraira, il a retenu un chien de garde. Ben vous savez, Abdullah ibn Omar qui a rapporté ce hadith, quelqu'un va lui dire, oui mais Abu Huraira a dit chien de garde, et toi tu ne le dis pas. Vous savez ce qu'a dit Abdullah ibn Omar? Il a dit, c'est parce que Abu Huraira a une plantation. C'est pour ça qu'il a retenu ça. Tout ça c'est important, parce que quand on va parler du hadith, le quatrième hadith qui est normalement qu'on devait traiter aujourd'hui, vous allez voir que quand on va rapporter les différentes versions de ce hadith, ça va avoir une conséquence dans notre position juridique quant à l'avortement. Ça c'est très important, et vous allez voir que il y a des choses vraiment fondamentales qui changent, hein, en fonction de quoi? Des versions du hadith. Autre chose, vous avez remarqué la différence, certains ont rapporté que la diminution des hasanats équivaut à quoi? À deux montagnes, et d'autres ont dit une montagne. Comment expliquer cette différence? Est-ce que c'est contradictoire? Certains... Il y en a un qui dit c'est deux montagnes, l'autre il dit c'est une montagne. Qui a raison, qui a tort? Elle a dit une montagne. Là aussi on peut émettre les deux hypothèses. Ou bien le prophète a dit à un moment donné une montagne, et à un autre moment il a dit deux montagnes. Pourquoi? Ce qu'il aurait rajouté, peut-être parce qu'au départ, il s'est suffi de dire une montagne de hasanat, et quand il a vu que les gens n'ont pas eu assez peur, il a rajouté pour dissuader les gens. Ou peut-être que le prophète a dit deux montagnes, mais la personne a retenu qu'une seule. Elle s'est trompée, elle a dit une, alors le prophète avait dit deux. Et quelle est la version qu'on va retenir? C'est celle qui rajoute un élément. Parce que, bien évidemment, quand le compagnon dit deux montagnes, il a rajouté, mais il n'a pas rajouté de lui-même. On ne peut pas dire que le compagnon rajoute de lui-même. Parce que ce ne sont pas des menteurs. Ce sont des gens qui nous ont rapporté les paroles du prophète fidèlement. Simplement, certains, par défaut de mémoire, vont oublier. Donc, deuxième hypothèse, c'est que le prophète a dit deux, mais il y en a un qui s'est trompé, il a dit une. Donc, on va toujours donner la suprématie au hadith le plus complet. Autre chose, autre possibilité, c'est que, en fait, tous les deux sont vrais. C'est que tu peux perdre soit une montagne, soit deux montagnes. Tout dépend de la gravité. La gravité de quoi? De l'acte. Peut-être que ça dépend des catégories de chiens. Certains chiens te feront perdre une montagne, d'autres deux. Ou peut-être que le chien de compagnie, il va avoir telle conséquence néfaste dans ta vie, selon la gravité, selon hein, le degré de nuisance, tu perdras une ou deux montagnes. Peut-être que le chien que tu as, les chiens qui sont en ville, c'est peut-être plus grave d'avoir un chien de compagnie en ville que dans la campagne. C'est peut-être plus grave d'avoir un chien chez soi la nuit que le jour. Après, on peut toujours hein, essayer de quoi ? De trouver de quoi des interprétations plausibles. Maintenant, ce qui est sûr, ce qui va nous permettre de quoi ? De trancher dans ces hypothèses, c'est le dernier hadith qui est le plus complet. Celui rapporté par Abdullah ibn Mughaffal, car lui, il a rapporté les trois catégories de chiens et il a dit deux montagnes. Dans un même propos, il a dit « J'ai entendu ça du prophète ». Donc on comprend que ce hadith qui est complet, on comprend par ce hadith qu'en fait, ceux qui ont rapporté la parole du prophète, ils ont soit omis, hein, en fait ils ont tous oublié quelque chose. Voilà, en fait c'est ça. Ils ont tous eu une mémoire sélective. Celui qui a eu la mémoire la plus fiable, qui a rapporté le propos à la lettre, eh ben, c'est le dernier compagnon. Et si on n'avait pas toutes ces versions, on ne pourrait pas en arriver à cette déduction, à cette conclusion. C'est pour ça que c'est très important, et c'est ce qu'on va faire quand on va parler de la question de l'avortement. On va essayer d'avoir les différentes versions du hadith pour avoir hein, une conclusion juste. Maintenant, ça c'était par rapport, on va dire, à la divergence quand... qui a un rapport avec les sciences du hadith, c'est-à-dire la manière de rapporter. Maintenant, on va s'interroger sur l'appréciation du contenu du hadith, les problèmes de compréhension du hadith même. Une question que je vous pose. Ici, il y a quelque chose qui est défendu. C'est le fait de se procurer un chien de compagnie chez soi. Est-ce que cette défense, cette proscription, à votre avis, a-t-elle une valeur de prohibition, c'est-à-dire d'interdiction formelle, c'est haram, ou bien a-t-elle une valeur tout simplement de réprobation, c'est simplement réprouvé, déconseillé. Quand vous entendez ce propos, est-ce que vous vous dites le fait de se procurer un chien chez soi de compagnie, c'est quelque chose qui est formellement interdit ou bien c'est simplement déconseillé? Donc moi, comment, à votre avis?
Déconseillé.
Oui. C'est
déconseillé.
C'est simplement déconseillé. D'accord. Qui penche vers l'autre avis qui dirait que c'est formellement interdit?
Tu donnes beaucoup de souplesse pour l'utilité du chien.
Non, moi je parle d'un seul cas. Attention, moi je parle d'un cas, c'est celui qui est cité. Celui qui est le cas où c'est défendu d'avoir un chien, c'est chez soi. Tu perds deux montagnes de hasanat à chaque fois que tu gardes un chien chez toi, chaque jour. Tu as un chien chez toi de compagnie. On ne parle pas du chien de chasse, de garde, etc., etc. Un chien chez toi simplement de compagnie. Chaque jour, tu perds deux montagnes de hasanat. Quand je te dis ça, ou quand tu entends ça de la bouche du prophète,
interdit.
Clairement interdit. Hein. C'est pas déconseillé. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est que tu perds deux montagnes de... le hasanat.
Chaque jour.
Ça veut dire que c'est quelque chose de grave. En fait, si vous avez dit ça, c'est parce que vous êtes parti du principe que vous avez deux montagnes de hasanat, vous en avez 10, et que chaque jour, t'en perds 2. C'est ça, t'en as 10, donc demain, il t'en reste 8. Demain, il t'en reste 6. Oui, mais c'est parce que tu as compris la perte comme quelque chose qui disparaît de quoi de ton capital. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre la perte d'une autre manière? Quand je te dis, Bilal, tu as franchement Bilal, tu as raté une occasion, tu as perdu 1000 euros. Est-ce que ça veut dire que tu avais 1000 euros et tu les as perdus? Ou bien tu aurais pu gagner 1000 euros? Mais comme tu n'étais pas là, Bah, en fait, tu les as perdus. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été privé. Tu les avais pas. Mais parce que tu n'étais pas là au moment précis, eh ben, tu n'as pas gagné 1000 euros. Donc quand je te dis tu as perdu 1000 euros, c'est soit tu les avais, tu les as perdus, soit tu les as ratés. Et on peut dire que tu les as perdus parce que tu aurais pu les avoir. Donc certains savants vont dire c'est simplement déconseillé. Parce que perdre deux montagnes de hasanat, ça ne veut pas dire que tu les avais, tu les as perdues. Mais tu es privé de deux montagnes de hasanat par jour.
D'où l'interdiction.
Non, attends. Ceux qui te disent c'est interdit, te disent bah, forcément quand tu perds deux montagnes de hasanat, ça veut dire que c'est interdit. D'autres, ils te disent non. Ici, le prophète a voulu te dissuader de prendre un chien en te disant si tu prends un chien, tu vas rater deux montagnes de hasanat. C'est pas que tu vas les perdre, tu vas les rater. Et ceux qui ont compris la perte de cette manière vont dire c'est simplement déconseillé. C'est-à-dire que le fait d'avoir un chien chez soi, ça va te priver de certaines œuvres de bien qui valaient deux montagnes de hasanat. Par exemple, le fait d'avoir un chien chez soi, ça va t'empêcher, par exemple, hein, de donner cet argent que tu as mis pour le chien aux pauvres. Ou bien, il va t'empêcher, il va te prendre tellement de temps que tu vas oublier, en fait, de quoi de faire ta prière. Ou ce chien, en fait, il va te prendre tellement d'affection que tu ne vas pas donner cette affection à tes enfants. Donc, tu as perdu deux montagnes de hasanat. Tu vois ? Ceux qui ont compris la perte de cette manière vont dire, c'est déconseillé. Et en fait, le prophète veut nous dire, en disant ça, ne prenez pas les chiens chez vous afin de gagner des hasanats. Mais entre nous, qu'est-ce qui est le plus logique ? Qu'est-ce qui est le plus proche du sens du propos du prophète ? Bah, c'est que tu perds vraiment deux montagnes de hasanat que tu avais. D'accord ? Naam.
Tout dépend du verbe qui a été utilisé.
Dans la perte ? Bah, ici, le verbe qui a été utilisé, c'est « yantaqisu min ajrihi kulla yawmin qiratan ». Il est diminué de son salaire chaque jour. Combien ? Deux montagnes.
Mais ou bien un montagne. Est pas plus large, plus large.
Si, effectivement, le verbe diminuer, il renvoie à quoi ? À quelque chose que tu avais et qui a disparu. Mais, il pourrait être interprété autrement. Simplement, la deuxième interprétation, on va dire, elle est tirée par les cheveux. Tu vois, c'est quelque chose qui s'écarte un peu du sens premier, du sens apparent. Et à chaque fois qu'on peut être proche du sens littéral, c'est mieux. Ou du sens linguistique, c'est mieux. Parce que les interprétations farfelues, il y en a, on pourrait s'imaginer beaucoup de choses. Maintenant, la question des catégories de chiens. Ici, quand le prophète dit, dans la version la plus complète, donc le propos en fait le plus proche du propos du prophète, un propos rapporté qui est vraiment le plus proche, c'est trois catégories de chiens qui sont en fait une exception. Chien de garde, chien de chasse, chien berger. Quand le prophète dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un chien, sauf dans ces trois cas, est-ce que toi, qui entends ça, tu comprends qu'en fait, toutes les catégories de chiens sont interdites, sauf les trois? Donc la restriction ici, elle est exhaustive, tu ne peux pas en rajouter une autre de catégorie. Ou bien le prophète, en citant ces exceptions, il a voulu donner des exemples, c'est-à-dire une restriction illustrative et non pas exhaustive. Quand le prophète dit « c'est interdit sauf ça, ça et ça », qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rajoute ou bien on s'arrête aux exceptions énoncées par le prophète? Elle est exhaustive. C'est vrai que c'est la règle. La règle, c'est que quand le prophète dit « fais des exceptions », on s'arrête à ces exceptions. Parce que qui est capable de faire une exception à la loi? C'est le législateur. Donc toi, tu n'es pas le législateur, tu ne peux pas légiférer, tu ne peux pas rajouter une exception. Tu ne peux pas te soustraire au rôle du prophète, prendre sa place. Mais attention, si ça c'est la règle, parfois, quand le prophète fait une exception ou émet une restriction, Parfois, il ne faut pas la prendre au sens exhaustif, mais au sens illustratif. Et on a des exemples, d'autres exemples, dans les propos du prophète, dans la tradition du prophète. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mensonge, la femme du prophète rapporte. Le prophète n'a permis, n'a toléré le mensonge que dans trois cas. En cas de guerre, pour réconcilier les gens, et dans la discussion qu'a un homme avec son épouse, bien entendu, pour éviter un grand mal, c'est-à-dire pour éviter un conflit. Je donne un exemple. Une femme qui dirait à son mari, est-ce qu'avant le mariage, tu as connu une autre femme ? Il a le droit de lui mentir et de dire non. Parce que s'il lui dit oui, d'abord, s'il a connu une autre femme, c'est peut-être dans le péché, donc il n'a pas révélé ses péchés, puisqu'il a demandé à Dieu de lui pardonner. Deuxièmement, s'il a été fiancé avec une autre femme, il ne veut pas le dire pour éviter une jalousie et un conflit. Eh bien, il ne le dit pas, il a le droit de mentir. Parce que l'intérêt du couple est plus important que de dire cette vérité. Parce que les conséquences vont être graves. Donc, dans ces situations exceptionnelles, le prophète a permis le mensonge. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que ces trois situations? Ou bien peut-on faire une analogie et dire que dans d'autres situations, il serait possible de mentir? Et comment faire? Les savants sont tous d'accord. En tout cas, ce que j'en connais, que dans le cas où, dans un pays où on réprime les opposants politiques, où il n'y a pas de liberté d'expression, où un homme est recherché parce qu'il a dit la vérité, et qu'on vient te voir et on te dit, sais-tu où se trouve cet homme? Tu te dois, parce que dire où est cet homme à la police reviendrait à quoi? À être complice dans une injustice. Tu te dois de quoi? De mentir et de dire je ne sais pas où il est. Pour protéger cet homme de quoi? De l'injustice de l'État, despotique, tyrannique. Mais ce cas-là, est-ce qu'il a été cité par le prophète? Il n'a pas été cité par le prophète. Pourtant, on est d'accord que ça rentre dans le même cadre. Parce que quand on observe, on analyse les trois exceptions, on retrouve qu'il y a un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est la nécessité ou l'intérêt général ou la levée de l'injustice. Et à chaque fois que on retrouvera cette raison, ce motif, eh bien le mensonge sera permis.
On peut voir aussi le fait que, dans le cas que
tu as
cité, le fait de mentir, qui est un péché
en soi,
est moins grave. Mmh. Que de permettre l'injustice qui
exactement.
Est beaucoup plus grave.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la politique du moindre mal. Mentir, c'est pas bien, mais révéler l'identité ou le lieu où se trouve cette personne, c'est un péché plus grave. Donc devant deux cas de figure, on pèse le pour et le contre, et on penche vers le moindre mal. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la jalousie. Quand je dis la jalousie, c'est la bonne jalousie. Hein. Ici, enfin, quand le prophète dit la jalousie, c'est la bonne jalousie. La jalousie n'est permise que dans deux cas. Dans le cas où tu jalouses une personne à qui Dieu a donné le Coran et cette personne le récite nuit et jour. Donc c'est quelqu'un qui a appris le Coran, le récite, le pratique. Et dans le cas où une personne est riche et il utilise son argent dans le bien, tu as le droit de les envier, au sens positif du terme. Est-ce qu'on réduit l'envie noble à ces deux cas, ou bien tu as le droit d'envier une personne qui est bienfaisante envers ses parents? Une personne qui a réussi dans sa vie professionnelle, tu voudrais être comme lui. Une personne qui a un bon comportement, tu voudrais être comme lui. Est-ce qu'on s'arrête à ces deux cas ou bien on dit les autres cas sont... Tous les autres cas sont possibles. Pourquoi ? Parce que on remarque que le prophète les a cités comme exemple et non pas comme... Hein, comme on va dire... enfin, de manière exhaustive. Et dans d'autres propos du prophète, hein, on retrouve toujours cette nuance. C'est la fameuse nuance en arabe, on appelle... Bon, la restriction, on appelle ça al-hasr. Donc, ils te disent, c'est hasr, idafi ou bien haqiqi. Donc, parfois, le prophète, quand il restreint, c'est exhaustif, et parfois, c'est simplement illustratif. Donc, ici, pour revenir au hadith du prophète, est-ce que le prophète, dans ce hadith, il s'est montré exhaustif ou bien illustratif ? Est-ce qu'on réduit les catégories permises de chiens à trois, le chien berger, le chien de chasse et le chien de garde, on les réduit à ces trois catégories, ou bien on peut en rajouter d'autres? Bon, et si tu veux en rajouter, comment tu procèdes?
C'est par rapport à l'utilité.
En fait, tu vas essayer de trouver la raison pour laquelle le prophète a toléré ces trois catégories. Et à ton avis, c'est quoi? C'est l'utilité, effectivement. Très bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une catégorie de chien, un chien sera utile, on le permettra parce que le prophète l'a permis pour cette raison. C'est ça? Donc il y a une raison, c'est quelque chose de rationnel et non pas quelque chose qui relève de la révélation et qui serait de l'adoration sans raison. Il y a une raison. C'est vrai. Donc tu vas citer une autre catégorie, un chien pour aveugle. Oui, un chien pour aveugle, c'est un chien utile. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est bien. Vous avez d'autres catégories de chiens utiles ?
La drogue.
Hein ?
La drogue.
Donc le chien stupéfiant, qui recherche la drogue, ou bien qui recherche les personnes perdues, chien d'avalanche, ou les choses perdues, ou paraît-il les truffes ?
Ouais, aussi, ouais.
Ça existe, hein ? Ouais. Vous avez une autre catégorie ? Non ? Un chien de cirque ? Le divertissement, est-ce que c'est... Oui, non ?
Voilà, c'est...
Donc ça
ne
fait pas de mal à l'animal, c'est bon.
Ah. Non, un chien de cirque, il n'y a pas de problème. D'accord ? Parce que c'est pas un chien de compagnie, on ne le met pas à la maison. D'accord ? C'est un chien qui est dans sa niche, il est dressé. C'est vrai que c'est pour divertir, mais le divertissement, il est autorisé en islam. D'ailleurs, au temps de l'imam Malik, Yahya ibn Yahya, un de ses élèves les plus réputés, qui va transmettre son livre Al-Muwatta, qui est venu d'Andalousie, à Médine, et bien un jour il était en classe, aux côtés de l'imam Malik, et il y a eu le cirque à Médine. Des éléphants sont venus à Médine, et tous les élèves ont quitté la salle. Et seul Yahya ibn Yahya est resté. Il lui a dit, mais pourquoi ne suis-tu pas tes camarades ? Il lui a dit, parce que je n'ai pas quitté l'Andalousie pour voir le cirque, mais j'ai quitté l'Andalousie pour profiter de toi. D'accord ? Donc il y avait le cirque, des éléphants qui avaient été dressés, amenés. Également, au temps du prophète, le frère de Anas ibn Malik, qui est le serviteur du prophète, s'appelait Umayr. Et il avait un oiseau de compagnie qu'il devait sûrement mettre en cage. Et le prophète lui disait chaque jour, quand il le voyait, « Comment va ton oisillon ?» Et un jour, il est décédé, il est mort, cet oisillon, et il était triste. Donc un chien de cirque, pourquoi pas ? L'utilisation du chien pour des expériences scientifiques, par exemple. Est-ce que ça serait...
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est risqué, il peut mourir, quoi.
Ah, on peut le faire souffrir. C'est ça ?
Non, on peut pas, justement.
Comment ça ? Comment
parce
ça
que c'est risqué. Genre, on est transporté pour. Je sais pas, comme les rats, on les teste pour certains
oui.
médicaments.
Oui.
Mais à la fin, s'il meurt, c'est une faute.
Donc, même l'utilisation des rats pour des expériences scientifiques, ça serait pas autorisé, c'est ça?
Bah, je sais pas.
Non. Non, chauffe. Tout ce qui est dans le cadre médical, scientifique, c'est pour l'intérêt de l'être humain. Et l'intérêt de l'être humain, c'est pour sauver, au final, c'est pour sauver des vies humaines. C'est l'expérience scientifique, c'est pas pour s'amuser, mais au final, c'est pour être au service de la santé de l'être humain. D'accord? Donc si c'est dans cette optique, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème, parce que on a là deux intérêts, deux vies, la vie de l'animal, la vie de l'être humain, et la vie de l'être humain est plus importante. Donc on pourra se permettre... Hein, dans cette optique de quoi ? De faire des expériences sur un animal, bien entendu, toujours en essayant de le faire souffrir. Mais si c'est obligatoire, on dira, par nécessité, pour sauver des vies humaines, on le permettra. D'accord ? Maintenant, il y a un hadith du prophète qui dit une histoire plutôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est entré chez son épouse anxieux, attristé. Elle lui a dit: qu'as-tu? Et le prophète de lui répondre: Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, celui qui se charge de la révélation, a convenu de venir me voir hier, m'a promis de venir me voir hier, il n'est pas venu. Et le prophète a trouvé dans la pièce un chiot. Et il a sorti le chiot. Et là, l'ange Gabriel est venu. Et il lui a dit: pourquoi t'es-tu retardé? Il lui a dit: parce que nous, les anges, on n'entre pas dans une maison où il y a des chiens. D'accord? La question, c'est pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que Jibril refuse d'entrer dans une maison où il y a un chien? Et est-ce que ça concerne tous les anges, ou simplement Jibril, ou simplement un type d'ange? Pourquoi est-ce que Jibril et d'autres anges n'entreraient pas dans une maison où il y a un chien?
Parce que la maison est impure.
Parce que la maison est impure. Tu veux dire que quand un chien entre dans une maison, puisqu'il est impur, elle devient impure. Donc ça, c'est pas possible. Mais ce que tu veux dire... Ce que tu veux dire, c'est... que les anges sont des êtres purs et ils n'aiment pas l'impureté. Et comme le chien peut faire ses besoins dans la maison, ou même s'il ne fait pas ses besoins dans la maison, parce que ça m'étonnerait, les chiens, ils ont souvent on les sort pour qu'ils fassent leurs besoins, mais le chien, et ça on va en discuter après, certains savants disent qu'il est impur. Donc comme il est impur, les anges sont purs, ils n'aiment pas fréquenter à la maison où il y a une impureté, comme celle-ci. Ça peut être une raison. Ou bien, on peut dire que les anges sont dérangés par le chien, sont dérangés par son odeur. Est-ce possible que les anges soient dérangés par une odeur? Oui, parce que le prophète a dit: quand vous venez le jour du vendredi, ne mangez pas d'ail. Parce que ça donne une mauvaise odeur. Et les anges n'aiment pas la mauvaise odeur. Donc les anges sont dérangés par les mauvaises odeurs autant que les êtres humains. Donc peut-être que les anges n'entreront pas dans une maison où il y a un chien à cause de la mauvaise odeur.
C'est uniquement l'ail. C'est pas le fait simplement de manger avant de venir à la mosquée.
Non, c'est pas le fait simplement de manger, non. C'est l'ail parce que l'ail donne une mauvaise haleine. Non. Tout ce qui a une mauvaise haleine aussi, hein, par analogie. Il faut que ça ait une mauvaise haleine, hein. C'est parce qu'il y a certains types de cuisson qui retirent la... Hein, peut-être qu'à l'époque ils le mangeaient cru, je ne sais pas, mais il faut que ça donne une mauvaise haleine. Bon, certains savants disent, on n'a pas besoin de chercher de raison, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où il a dit on n'entre pas en maison, il y a un chien, ça suffit. D'autres vont essayer de trouver une raison, certains vont dire c'est l'impureté du chien, d'autres vont dire c'est la mauvaise odeur, d'autres vont dire c'est tout simplement par punition. Parce que le prophète a dit ne prenez pas un chien de compagnie chez vous, comme la personne lui a désobéi, alors l'ange n'entrera pas. dans sa maison. D'accord ?
Ça se sent que le prophète lui-même aurait désobéi.
Non, ce chien, non, attention, oui, ça je ne l'ai pas précisé. Le prophète n'était pas au courant qu'il y avait un chien.
Okay.
Non, il n'était pas au courant. Non. Maintenant, est-ce que ce sont tous les anges ou certains types d'anges? Assurément, ce ne sont pas tous les anges. Parce qu'il y a certains anges qui ne te quittent jamais, comme ceux qui sont à ta droite et à ta gauche. Hein, ceux-là, ils peuvent pas. Ou bien l'ange de la mort. Est-ce que l'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison parce qu'il y a un chien? Non. Sinon, ça serait... On aurait tous des chiens. ce sont en fait les anges qui nous sont profitables, comme l'ange de la miséricorde, l'ange du pardon, l'ange qui va te pousser à faire du bien, qui va te protéger. Enfin, tous les anges, en fait, qui te sont profitables, tu en seras privé. D'où, hein, ça serait peut-être un élément, un argument, hein, pour ceux qui disent que c'est simplement déconseillé, que tu perds deux montagnes de hasanat, parce que tu serais, entre autres, privé de quoi? D'anges. Et les anges, ils te poussent à faire des hasanat. Mais comme on l'a dit, hein, c'est faible. Mais ça aurait pu être un argument en faveur de cet avis. Maintenant, le prophète, la femme du prophète qui rapporte ce récit, dit, le lendemain, le prophète a ordonné aux compagnons de tuer les chiens de Médine. Et les gens ont commencé à tuer les chiens de Médine. Pourquoi le prophète a-t-il demandé de tuer les chiens de Médine? À votre avis? Tu dis les chiens errants. Bonne réponse. Pourquoi est-ce que vous avez été choqué quand j'ai dit ça? Parce que vous avez fait un lien de manière automatique et naturelle entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Mais qui dit qu'il y a un lien? Qui vous dit qu'il y a un lien? Non. Le prophète, il y a une histoire. La veille, le lendemain, je lui demande de tuer certains chiens. Pourquoi est-ce que forcément on dit c'est parce qu'il a été privé de la révélation que le lendemain, par vengeance, il demande de tuer les chiens? Ça n'a rien à voir. Non. Il a ordonné de tuer les chiens, Bilal l'a dit, les chiens errants, les chiens qui posaient problème à Médine. Comme ça se fait aujourd'hui dans certaines villes. Quand il y a trop de chiens, des chiens dangereux, des chiens errants, eh bien on s'en débarrasse. Tout animal nuisible, il est possible de le tuer. Le prophète a dit, 5 animaux sont nuisibles et on peut les tuer même dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Parce que vous savez que l'enceinte sacrée de la Mecque, il est interdit de tuer les animaux ou d'arracher une plante. Sauf ces 5 animaux. Et par analogie, tout animal nuisible. Donc même à la Mecque, même dans l'enceinte sacrée, eh ben, on peut tuer un moustique qui viendrait te piquer le soir. On ne dit pas parce que tu es dans l'enceinte sacrée, tu n'as pas le droit de le tuer. Non, parce qu'il est nuisible. Et le prophète a dit, 5 animaux sont nuisibles, tu peux les tuer. Notamment, hein, si je me souviens bien, la vipère, le chien enragé, etc., etc. Le scorpion, enfin, certains animaux vraiment nuisibles à l'époque. Mais bien entendu, on se réduit à la nécessité, on ne tue pas un animal comme ça. Si un animal est dangereux et nuisible, on le tue. Par exemple, une araignée, on ne voudrait pas d'elle dans la maison, elle est nuisible, elle fait peur, je ne sais trop quoi, on peut, le mieux c'est de la sortir, mais on peut la tuer aussi. Un cafard, etc., etc. Mais, regardez ce hadith du prophète, il dit qu'un prophète était allongé sous un arbre et une fourmi l'a réveillé en le mordant dans son pied. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on brûle toute la termite. La fourmilière. Et là, Dieu lui a dit, pourquoi t'es-tu vengé sur toute la fourmilière alors que c'est une fourmi qui t'a réveillé, blessé, etc. Donc, ne pas abuser. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète quand il leur a dit tuer les chiens errants. Ils ont commencé à exagérer. Et là, il leur a dit, qu'avez-vous avec les chiens? Laissez-les. Et il a dit dans un autre hadith que c'est une communauté, hein, c'est une communauté qu'il faut préserver. C'est une espèce. Et c'est venu dans le Coran. Il n'y a d'animaux, même d'oiseaux qui volent de ses deux ailes, si ce n'est qu'ils vivent en communauté comme vous. Donc parce que c'est une communauté, une espèce, on doit la préserver. Donc il n'y a pas d'extinction d'une espèce en islam. Au contraire, il y a la préservation des espèces animales et végétales. Donc effectivement, le prophète a demandé à un moment donné, pour une raison précise, certains chiens dérangeants, de quoi de s'en débarrasser. Et quand il a vu une exagération, il leur a dit que ça suffit. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en islam, il n'y a pas une haine du chien ou que le chien serait détesté en islam? Qu'est-ce qui prouve ça? Vous avez déjà, dans Sourat Al-Kahf, l'histoire des sept dormants, qui avaient un chien. Un chien qui, d'ailleurs, qui était un miracle, puisqu'il est resté devant la grotte, etc., etc. Et on a aussi le fameux hadith, qui est encore plus fort dans ce sens, de cette femme prostituée, ou dans une version de cet homme, qui avait très soif, qui est descendu dans le puits, il a bu de l'eau, et ensuite, en sortant, il a trouvé un chien qui lapait la terre tellement il avait soif, et il lui a donné dans sa pantoufle, il a récupéré de l'eau du puits dans sa pantoufle, et il l'a donné au chien. Et Dieu dit, je lui ai pardonné, ou cette dame, cette prostituée, je lui ai pardonné, elle est au paradis, parce qu'elle a eu pitié de ce chien, elle était miséricordieuse envers ce chien, et Dieu s'est comporté de la même manière. Et le prophète a dit, dans toute vie animale, il y a une sadaqa, c'est-à-dire tu peux faire du bien à toute vie animale. Et les savants disent, si un jour tu te retrouves avec une bouteille d'eau, dans un désert, tu as avec toi ton chien, et que tu dois faire tes ablutions, et que tu as la quantité suffisante, juste suffisante pour faire tes ablutions, et que ton chien a soif, tu donnes l'eau au chien, et tu fais le tayammum. Tu fais tes ablutions au moyen de la terre, parce que c'est une vie que tu dois respecter, et tu ne dois pas faire souffrir un animal. Autre chose, il y a un hadith du prophète qui dit, le chien, le diable, des hadiths qui vont dans ce sens-là, que le diable peut apparaître sous l'apparence d'un chien noir, avec une tache blanche. Oui ? Et dans un hadith, si vous en voyez un, tuez-le. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tuer les chiens noirs ? Non. Tout chien noir, ça ne veut pas dire que c'est un diable. Non. C'est vrai que le diable peut apparaître sous la forme d'un chien noir, mais ça ne veut pas dire que tout chien noir est un diable. Pas du tout. Autre chose, il y a un hadith, trois choses coupent la prière, je traduis de manière littérale, le passage d'un âne devant la personne qui prie, le passage d'un chien et le passage d'une femme. Quand Aïcha a entendu ce hadith, elle a été choquée. Elle a dit à Abu Huraira, comment tu nous rabaisses au rang des ânes et des chiens? Non, le prophète n'a pas dit ça. Or, c'est un hadith qui a été dit par le prophète. Mais, en fait, elle l'a pris au sens littéral, où elle n'a pas compris Aïcha à ce moment, c'est que ce n'est pas parce que le prophète a dit que la prière est coupée. D'abord, coupée, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu dois recommencer ta prière si un âne ou un chien passe devant toi. Ça veut dire que tu es déconcentré et que ta prière, tu n'auras pas toute la récompense de la prière, puisque tu as été déconcentré par quelque chose. Donc, tu ne vas pas en tirer tout le bénéfice attendu. Mais ce sont, encore une fois, trois exemples. Comme on a dit, quand le prophète cite trois choses, ça ne veut pas dire que ce sont que ces trois choses. Toute chose qui passe devant toi et qui te gêne va te déconcentrer, et donc, forcément, tu vas perdre une concentration, donc des hasanat. Et pourquoi a-t-il cité la femme ? Tu peux sortir 10 exemples, mais assurément, ce n'est pas pour la rabaisser au rang de l'âne ou du chien. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Peut-être parce qu'à l'époque, généralement, quand on était déconcentré, c'était soit par le passage d'un âne ou d'un chien. Parce que, comme le dit un compagnon, dans la mosquée du prophète, les chiens se baladaient. Pendant qu'ils priaient, comme c'était ouvert, les chiens passaient. Ils urinaient même dans la mosquée. Et ils recouvraient leurs urines ou leurs excréments. Donc effectivement, c'était un cas concret, il y avait des chiens qui passaient devant eux, des ânes aussi. Et effectivement, comme les gens priaient parfois chez eux, il se peut que, vivant dans une seule pièce, puisqu'à l'époque il y avait des personnes pauvres, il se pouvait que, à cause de la promiscuité de l'endroit, eh ben, l'épouse passe devant son mari. D'accord ? Et c'était le cas du prophète. Enfin, pas exactement ça, mais il vivait dans une pièce tellement contiguë avec sa femme Aïcha que quand il se prosternait la nuit, il touchait sa jambe et Aïcha, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle repliait sa jambe pour qu'il puisse se prosterner. D'accord ? Donc le fait que le prophète ait cité ces trois exemples, ça ne veut pas dire que c'est que ça, et ça veut dire qu'il les met au même plan. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas interpréter les propos du prophète comme bon nous semble, en ayant un a priori vis-à-vis de l'islam, etc. Maintenant, est-ce que le chien, selon vous, est totalement souillé ? C'est une souillure, une impureté ? Ou simplement une partie de lui ? Ou bien il n'est pas du tout impur ? Et qu'est-ce qu'on entend par souillure ou impureté ? C'est-à-dire, s'il te touche, ça pose problème. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Une souillure, non ?
Tout, hein ? Ses poils, tout.
Non, une partie.
Une partie, laquelle ?
Les poils, non ?
Le nez ? La truffe ? Le venin ?
Excrément ?
La salive. Salive ? Ok. Attendez, en fait, vous avez tous raison parce qu'il y a divergence sur le sujet. La divergence vient du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand un chien lappe l'eau d'un récipient, vous devez laver ce récipient 7 fois, en commençant, ou dans une version, en terminant, ou la 8e fois dans une version, par de la terre. Donc nettoyer le récipient où a mangé ou a bu un chien à 7 reprises et avec de la terre. Ce qui nous vient à l'esprit directement, c'est que ça veut dire que sa bouche, sa salive, sa langue sont une impureté. Si on doit laver le plat à ce point, s'il y a insistance, c'est que c'est vraiment une grande impureté. Ce n'est pas une petite impureté, c'est une grande impureté. N'est-ce pas ? Non, c'est pour ça que certains ont dit il est totalement impur. Puis d'autres ont dit non. Ici, dans le hadith, ben, on voit bien que c'est la langue qui pose problème. Puisqu'on a parlé de boire, de laper. Donc certains ont dit c'est simplement sa salive et sa sueur, donc ses sécrétions. Évidemment, tout le monde est d'accord que l'urine et l'excrément, c'est une impureté. Ça, on n'en discute pas. On discute de ses poils, de son flair, de son nez, etc. Et puis vous avez certains savants, les savants malikis, qui disent que rien dans le chien est une impureté. Il est totalement pur. Mais comment vont-ils répondre à cette objection? Oui, mais on doit laver 7 fois le récipient où il a mangé. Comment interpréter, comment répondre? Les savants malikis ont dit c'est justement parce que le prophète a dit de laver 7 fois le récipient qu'on en a compris que c'est pas une impureté. Parce que si c'était une impureté, comme l'urine, comme l'excrément, etc., il aurait suffi de la retirer tout simplement. Le fait que le prophète demande 7 fois, et non pas 10 fois, ou 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou jusqu'à ce que ça parte, ça veut dire que la raison, c'est pas l'impureté. C'est une autre raison. Et là, vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que c'est une raison médicale. Si le prophète a dit 7 fois, c'est qu'il y a derrière une raison médicale. Et les scientifiques d'aujourd'hui l'ont attesté, parce qu'ils ont découvert que la salive du chien contient certains microbes qui ne peuvent disparaître que par l'utilisation de la terre. Même si tu utilises du javel ou tu utilises je ne sais quel détachant, c'est ça, comment on dit ? Détergent. Je sais plus comment on dit. Enfin, n'importe quel moyen pour retirer cette impureté. Ce microbe, tu ne peux pas, c'est juste la terre. Donc si le prophète a dit 7 fois avec la terre, c'est un miracle à son époque, c'est qu'il a indirectement fait allusion à une vérité scientifique qui n'a été approuvée, découverte qu'aujourd'hui. Et puis aussi, ce qui les conforte dans leur avis, c'est quoi ? C'est que si le prophète a dit 7 fois, c'est parce que le chiffre 7, il a un secret. Ce que le prophète a dit, celui qui se nourrit le matin de cette date alors il ne sera pas touché par la magie. Et quand il était dans sa maladie, sa dernière maladie, hein, celle de sa mort, qui va conduire à la mort, donc quand il avait une forte fièvre, il a demandé à ce qu'on verse sur sa tête 7 seaux d'eau. Il a dit 7. Donc, apparemment, le chiffre 7, il y a un secret. Et puis, les savants malikis disent, si sa salive posait problème, pourquoi alors le chien de chasse qui te rapporte le gibier dans sa gueule, pourquoi tu peux manger le gibier directement? On ne t'a pas demandé de retirer la partie où il a posé ses crocs, où il a entré ses crocs. Si c'était véritablement une impureté, on aurait demandé de quoi? De retirer cette partie souillée de la viande ou de la peau. Et ils disent, ce n'est pas possible que Dieu nous permette certaines catégories de chiens avec qui tu seras en contact fréquent, le chien berger, le chien de garde, le chien d'aveugle, etc. Et en même temps, tu dois t'en éloigner. Parce que si c'est une impureté, tu dois t'en éloigner. Donc, il y a une contradiction entre je te facilite l'acquisition du chien et en même temps, je te dis de t'en éloigner parce que c'est une souillure. C'est pas compatible. Et puis certains disent, non, tout ça, c'est pas des preuves. C'est que effectivement, il est totalement une impureté, sauf si il t'est permis de le prendre. Si il t'est permis de le prendre, et bien de là découle une dérogation, celle de... Hein, de quoi de... Ce n'est pas un problème s'il te touche. Enfin bref. Le chien de chasse. Un homme a dit au prophète, « Ya Rasulallah, nous sommes un peuple qui avons l'habitude de chasser avec les chiens. » Et le prophète lui a dit, « Si tu chasses avec un chien, alors il doit être dressé. Et quand tu le lances, tu dois dire « Bismillah », tu dois prononcer le nom de Dieu, et il ne doit pas manger de la proie, du gibier. » Parce que s'il mange du gibier, c'est qu'il n'est pas dressé. Parce qu'il est dressé à quoi faire? Soit à tuer l'animal, et à te le rapporter, soit tu l'as tué, et il te le rapporte. Mais s'il mange de l'animal, c'est qu'il n'est pas bien dressé. Donc première condition, c'est que le chien doit être dressé. Quand tu le lances, il s'élance. Quand tu lui dis viens, il revient. Et il ne mange pas de la bête. Deuxièmement, tu dois prononcer le nom de Dieu comme si tu chassais à la carabine ou à l'arc. Tu dois dire Bismillah. Et tu n'as pas besoin d'égorger la bête si elle est morte. Parce que tu l'as tuée par le lancer du chien ou par le lancer de la balle ou le lancer de la flèche ou je ne sais trop quel piège que tu aurais tendu. Donc ça vaut... Hein, ça permet de quoi de rendre la bête licite, la viande licite. Mais si le chien apporte le gibier vivant, tu dois l'égorger. Mais s'il est mort, c'est bon. C'est une dérogation. Et il est possible de quoi, bien entendu, d'élever des chiens pour en faire des chiens de chasse ou de berger ou je ne sais trop quoi. Forcément, si... c'est permis de se les approprier, il est permis de quoi? De les vendre, de les acheter, de les élever. Tout ça, hein, c'est une déduction logique. Et si tu as un chien de chasse, et que la chasse n'est permise, par exemple, qu'un mois durant l'année, bien évidemment, tu peux le garder pendant 11 mois, même si, pendant 11 mois, tu ne l'utilises pas pour ton objectif. Si tu élèves des chiens, hein, dans le but de quoi? Dans quelques années, de les utiliser pour la chasse. Ben pendant 2-3 ans, effectivement, c'est pas un chien de chasse, mais il t'est permis de l'avoir. Tout ça, c'est logique aussi. Donc à partir du moment où on autorise ces catégories, vous avez plusieurs choses qui sont autorisées. Hein, le fait de l'acheter, de le vendre, de l'élever, etc. Ensuite, il nous reste la question de l'euthanasie. Quand un chien souffre gravement, énormément, il s'est fait renverser, il souffre. Peut-on abréger ses souffrances par l'euthanasie? Oui, c'est possible. Mais toute proportion gardée, c'est-à-dire sans exagérer dans le prix. On ne va pas non plus dépenser des centaines d'euros pour abréger les souffrances d'un animal. Parce que ces centaines d'euros devraient plutôt aller pour abréger les souffrances des êtres humains. Donc toujours, hein, rester dans le juste milieu. Il faut effectivement ne pas faire souffrir l'animal, faire en sorte qu'il ne soit pas, qu'il ne souffre pas, mais ne pas oublier les êtres humains. D'accord ? Maintenant, une question qui est aussi importante. Est-ce que aujourd'hui, parce que c'est une question actuelle, vous avez aujourd'hui des gens qui ont besoin des chiens chez eux ? Des gens qui sont seuls. Ils te disent, moi, mon chien, si je ne l'ai pas, je déprime, je me suicide, je ne sais trop quoi. Donc, est-ce que c'est une utilité ou pas ? Un chien pour une personne âgée qui serait seule ? Oui ?
C'est chaud.
C'est chaud.
Non, si ça lui apporte du bien-être, c'est comme un outil.
D'accord. Là, il y a un problème. Tu sais, c'est quoi ? C'est que d'abord, cette utilité, elle est psychologique ou affective. On ne parle pas d'une personne qui aurait besoin d'un chien pour la conduire, pour je ne sais trop quoi. On parle de quoi ? De quelque chose qui relève de l'affection, de la psychologie. Le problème, c'est quoi ? C'est que c'est poser la question à l'envers. C'est qu'en fait, ces gens qui aujourd'hui dépendent du chien chez eux, c'est parce qu'à l'origine, ils l'ont rentré chez eux, ils en ont fait un animal de compagnie. S'ils n'en avaient pas fait un animal de compagnie, ils n'en dépendraient pas. Vous avez compris ? Tu dépends du chien, affectivement, que si, au départ, tu te le procures chez toi, tu décides de le prendre chez toi. Or, au départ, tu as commis une faute. C'est qu'il t'était interdit de le prendre comme chien de compagnie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les pays à majorité musulmans, il n'y a pas cette dépendance au chien chez soi. Parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des chiens chez eux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire « Oui, mais aujourd'hui, le chien est utile à la maison car il apporte de l'affection et des gens peuvent... » etc. Non. Tout ça, c'est parce qu'à l'origine, les gens n'ont pas appliqué la parole du prophète. Si dès le départ, ils n'avaient pas pris le chien, eh ben, ils n'en dépendraient pas affectivement et psychologiquement. Et si le prophète, il y a 1400 ans, et Dieu, il y a 1400 ans, nous ont défendu d'avoir des chiens de compagnie chez nous, c'est entre autres, en plus de tout ce qu'on a dit, hein, le fait que les anges n'entrent pas, patati, patata, c'est en plus, et c'est surtout à mon avis, pour ne pas tomber dans les excès d'aujourd'hui. Parce que le chien, c'est un animal spécial. On l'a dit, hein, dans l'affection qu'il donne à l'être humain, dans l'attachement qu'éprouve l'être humain vers le chien, c'est spécial. Et quand il y a trop d'affection, il a forcément des excès à un moment donné. D'accord ? En plus, bon, après, on peut toujours trouver d'autres raisons, mais tout ça, c'est pas important. Mais on peut toujours trouver des sagesses. Que le chien, même si c'est un animal domestique, il se peut qu'il revienne à son état sauvage à certains moments. Comme ça s'est passé il n'y a pas très longtemps dans le coin, et c'est un pompier qui raconte, hein, il a dit, on est intervenu dans une maison, il y avait des personnes âgées qui ramassaient les chiens dehors. Ils avaient des dizaines de chiens chez eux, 30, 40 chiens chez eux, ils les élevaient. Et la vieille personne est décédée. D'accord ? Et bien les chiens vont manger. Et quand son épouse, qui est aussi une dame âgée, est rentrée, elle a vu cette scène, les chiens en train de manger. Son mari, elle est restée sur son fauteuil figée. Et quand les pompiers sont entrés, ils l'ont trouvée dans cet état. Une statue. Choquée, figée. Parce que c'est une scène, bien entendu, dur à supporter. Elle a perdu la tête. Donc, le chien, c'est peut-être une sagesse, c'est que parfois il peut revenir à son état sauvage, on ne sait pas. Donc, le fait de ne pas le mettre chez soi, ça nous protège. Hein, ça nous protège peut-être d'autres choses, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le prophète l'a défendu, et on s'en tient au prophète. Et bien entendu, tout ce qu'a dit le prophète est bon pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà. Voilà. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين